7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons des arnaques sur Internet. Alors certaines utilisent surtout la manipulation psychologique, comme les romances sentimentales fabriquées par les brouteurs, mais d'autres arnaques sont plus technologiques, comme les pièges des achats en ligne, le piratage de données, voire, plus rare, l'usurpation d'identité, mais qui terrorisent les internautes. Sans parler des vols, des chantages aussi au sein des entreprises. Les voisins et les voisines, appelez-nous si vous avez été victime d'arnaques sur Internet. Vous pouvez aussi bien sûr poser toutes vos questions, des plus évidentes aux plus complexes. Notre numéro de téléphone, c'est toujours le même, 33 1 84 22 71 71. Et c'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp pour nous laisser des messages. Alors je vous présente nos invités. Sébastien Dupont, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez « Vous êtes fou d'aller sur Internet » chez Flammarion. Vous êtes expert en sécurité numérique. Vous avez notamment travaillé pour l'armée française. Et d'ailleurs, vous souhaitez lancer un appel aux auditeurs.
Oui, alors effectivement, c'est intéressant si ceux qui ont été victimes d'arnaques peuvent nous appeler pour qu'on puisse échanger. Mais également les auteurs, c'est-à-dire que si vous avez un petit business, une petite entreprise dans l'arnaque, entre guillemets bien entendu, n'hésitez pas à venir dialoguer, à nous appeler pour qu'on puisse essayer de comprendre tous ensemble ce phénomène.
Alors les brouteurs, vos appels sont totalement anonymes, donc je rappelle le numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Nicolas Arpagian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la stratégie d'Orange Cyberdéfense et enseignant à l'École Nationale Supérieure de la Police, le NSP, et vous avez publié « La cybersécurité au PUF ». Alors, sans tomber dans la paranoïa, on va voir quelles sont les précautions à prendre pour éviter les arnaques les plus courantes, des conseils qui sont parfois quand même évidents, mais que peu d'utilisateurs respectent. C'est un peu comme en médecine, je dirais. On sait souvent ce qu'il faut faire pour ne pas tomber malade, mais de là à l'appliquer, il y a quand même une bonne distance. Allez, je rappelle notre numéro 33 1 84 22 71 71, les arnaques sur Internet.
7 milliards de voisins, nous avons maintenant une LUCAM. Voisins, voisines, on est ensemble. Et puis on va se parler, on va se dire la vérité.
Je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Kevin Aloubumbashi, 25 ans. Un type s'est fait passer pour la première dame du pays en m'envoyant un mail qui disait qu'un colis de Dubaï avec une centaine d'ordinateurs était disponible et qu'il fallait que j'aille le récupérer. Je devais bien sûr prévoir une somme de 300 euros pour récupérer le colis. Mon frère m'a prévenu que c'était sûrement pas vrai, mais c'est vrai, j'étais sur le point de le faire. Aladdin, Brazzaville, je me suis fait pirater mon premier compte Facebook en 2015 et depuis, je suis devenu moi-même expert en hacking. Un voisin à Kalabankoro, dans le sud du Mali, 31 ans. En 2014, j'étais sur Facebook avec un ami évidemment au sens Facebook, hein. Il m'a envoyé un message en me disant que j'étais héritier d'une grande fortune. Formidable, hein, tout ce qu'on vous annonce. Il m'a posé plein de questions sur mon compteur, mon numéro de compte, mon adresse, ce que je fais dans la vie. Je lui ai dit que si réellement il voulait m'aider, il ne fallait pas me trahir car j'étais orphelin. Et après ce message, il ne m'a plus écrit. Et je suis rentrée ensuite sur le profil de la personne. J'ai vu qu'il avait envoyé le message à plein de personnes. Ah, parfois, les arnaqueurs peuvent être pris de sentimentalisme. Mais tout de suite, écoutez le témoignage d'Étienne, 24 ans, qui s'est fait arnaquer via une publicité ciblée sur un réseau social.
Un beau jour que je défilais mon mur Facebook, je tombe sur une annonce de loterie pour gagner des iPhone 6 Plus. J'étais très intrigué parce que je voyais dans les commentaires que des gens avaient gagné et qui écrivaient « Ouais, j'ai reçu mon iPhone 6, j'ai gagné le loto ». Ils ouvraient leur paquet avec leur iPhone, photos et tout. Et donc je tombe dans le panneau. Du coup, ni une ni deux, je m'inscris. Pour la modique somme de 2,50€, je me disais, je suis prêt à les perdre. Voilà. Voyons voir ce que c'est. Alors, au moment où ils me demandent donc, pour m'inscrire, en fait, il y avait un truc qui était vraiment caché. Pour participer à la loterie, il fallait d'abord s'inscrire sur un autre site de jeux vidéo en ligne. Et en tout petit, enfin, il y avait écrit accepter les conditions d'utilisation, qu'évidemment, je n'avais pas lu. Et en fait, j'ai rentré mon numéro de carte pour rentrer les 2,50€ nécessaires, ce qu'il disait pour participer à la loterie. Et en fait, j'ai reçu un mail de confirmation en me disant que mon abonnement à ce site de jeux vidéo avait bien été accepté et que je serais débité de 83€. et que à partir de ce mois-là, et que c'était impossible de faire marche arrière, parce que sinon, ils ont tout le dossier constitué juridique pour t'empêcher de le faire. Donc j'étais juste coincé.
Est-ce que tu as cherché à contacter les annonceurs ou à dénoncer cette arnaque ?
J'ai pas eu envie en fait de dénoncer le truc parce que j'étais pas fier d'être tombé dedans déjà. Non, franchement, j'aurais dû peut-être faire plus gaffe aux commentaires des posts parce que les premiers mettaient en valeur la loterie, mais il me semble qu'en dessous, il y avait des trucs qui prévenaient de l'arnaque.
Comment on peut éviter ce genre d'arnaque sur Internet ?
En se méfiant plus, tout simplement. Surtout à partir du moment où on demande de l'argent, même pour une somme modique. L'exemple montre que ça peut être caché en dessous et que vaut mieux se faire marche arrière dès qu'il y a une question d'argent.
Quel âge tu avais pendant cette arnaque ?
19 ans, un truc comme ça.
Donc est-ce que tu penses que ce genre d'arnaque, ce genre de fausses annonces vise plus les jeunes, les gens peut-être plus naïfs ?
Bah, ça m'étonnerait pas parce que je sais qu'on peut cibler une audience avec les publicités Facebook, donc pourquoi pas effectivement.
Quel sentiment tu gardes de cette plutôt mauvaise expérience ?
La frustration dans un premier temps parce que j'avais perdu de l'argent, ça me saoulait. Et en même temps, de l'impuissance parce que je ne pouvais rien faire. Donc j'étais frustré et impuissant.
On est unis dans la diversité.
Malgré toutes nos différences, il y a toujours quelque chose qui nous rapproche.
C'est l'amour ça.
Voilà,
d'accord.
C'est l'amour.
Appelez-nous pour nous poser toutes vos questions si vous avez été victime de piratage de données, d'arnaques aussi plus technologiques. Là, ce qu'on vient d'entendre avec le témoignage recueilli par Loan Nader, le témoignage d'Étienne, c'est finalement quand même une manipulation psychologique. Est-ce que vous êtes encore surpris, Sébastien Dupont et Nicolas Arpagion, de la crédulité des internautes ?
Alors là, c'est un grand classique. Étienne s'est fait avoir parce qu'il est face à une offre alléchante. Il est intéressé, il se fait piéger. Le piège
et que les vraies loteries existent.
Les vraies loteries existent, mais sur Internet, la plupart, ce sont des arnaques. À chaque fois qu'on vous fait gagner un iPhone, une tablette, un voyage ou un séjour sur... c'était Euro Disney, le dernier qui était à la mode, ce sont des arnaques. Et là où les arnaqueurs sont très
c'est-à-dire
forts...
C'est-à-dire qu'on pirate la marque dans ces cas-là ?
Alors, ils sont très subtils à chaque fois. Ils ne vont pas citer la marque... pour pouvoir ne pas être sous le coup d'une loi. Ils sont très malins. Et là où ils sont très malins également, c'est quand ils vont vous arnaquer d'un montant qui, finalement, vous perdez 40 euros, 80 euros, vous n'allez pas faire le pas d'aller porter plainte. Ils restent sous les radars. C'est-à-dire qu'ils vont faire de nombreuses arnaques, mais les gens ne vont pas porter plainte.
C'est la logique du volume pour faire du chiffre.
Exactement.
Donc.
Les petits ruisseaux vont faire de grandes rivières.
Nicolas Arpagion.
Alors, en fait, au début, il y avait effectivement des loteries licites. Alors, c'était souvent utilisé à des fins de constitution de base marketing. On vous demandait, pour participer à un jeu, de donner votre nom, votre email, et ça permettait de constituer à peu de frais une base marketing qui était revendue. Et donc, effectivement, à ce moment-là, vous n'étiez le destinataire que de publicité. Simplement, on a vu que dès lors que les gens étaient crédule parce que on voit bien que cette notion de gain facile, avec d'ailleurs on voit l'habillage qui est autour, c'est-à-dire que pour se rassurer, les gens ont maintenant le réflexe de voir les commentaires et donc le pirate va ouvrir une séquence de commentaires pour faire en sorte de rassurer, de répondre immédiatement aux inquiétudes de l'internaute qui s'interrogerait tout de suite, doit être en
donc,
quelque sorte
faux commentaire,
apaisé.
Hein, on est bien
sûr,
d'accord.
Évidemment, puisque les photos et les vidéos de quelqu'un ouvrant un paquet, simulant la satisfaction de l'euro gagnant.
Comment on peut vérifier si ce sont de faux commentaires
non,
ou pas, si on arrive sur des profils qui semblent tout à fait vraisemblables.
Je pense qu'il ne faut pas perdre de temps à cette investigation-là. On ne vous offre pas d'iPhone pour 2 euros. On ne vous offre... Vous n'êtes pas...
Sauf si c'est votre opérateur de téléphonie mobile.
Bien sûr, mais c'est à ce moment-là, vous serez dans une relation de confiance et habituelle. Et là, on n'est pas dans cet esprit-là. Mais a priori, vous n'êtes pas l'héritier d'un roi richissime. Et vous n'avez que peu d'intérêt à venir aider la veuve d'un dictateur en fuite qui vous explique que, moyennant votre engagement de quelques euros... initial, vous allez pouvoir bénéficier d'une partie du stock d'or de la Banque Nationale.
Mais alors, question de Draman à Bamako, que font les réseaux sociaux à propos de messages d'arnaque qui continuent de circuler sur les réseaux ? Ici au Mali, les gens continuent d'être victimes de cela. C'est le problème du contrôle de la publicité par les plateformes.
Alors en fait, c'est le signalement. L'idée, c'est que aujourd'hui encore, dans la plupart des pays, les plateformes comme Twitter, YouTube, Facebook, etc. ont un statut d'hébergeur. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas éditeurs. Ici, à l'antenne de RFI, vous êtes responsable dès lors que vous vous mettez en onde une information, que vous donnez la parole à quelqu'un, vous êtes de facto immédiatement responsable. Parce qu'il y a un directeur, une directrice de la publication, et vous, c'est automatique, c'est lié à votre statut et à votre activité. Quand vous êtes qu'un hébergeur, votre responsabilité n'intervient qu'à partir du moment où il y a eu un certain nombre de signalements en nombre suffisant et convergent. C'est-à-dire que beaucoup de gens pointent vers la même information en disant « ça pose problème ».
Et là, il y a une responsabilité de l'hébergeur.
Voilà. Alors la seule chose, c'est que combien faut-il de dénonciations suffisamment argumentées, suffisamment précises pour le même fait ? Et à ce moment-là, effectivement, ils ont une responsabilité. C'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de pays, parmi lesquels la France, mais d'autres pays, sont en train d'essayer de modifier ce statut-là de manière à leur dire « non, vous voyez bien que quand vous faites des appels pour offrir des iPhones à Tire-la Rigo, il y a manifestement une fraude quelque part, et donc effectivement en amont d'empêcher la diffusion, ou en tout cas que celle-ci ne puisse pas se propager.
Ces arnaques qui relèvent essentiellement de la manipulation psychologique, c'est-à-dire qui jouent sur la crédulité, sur la naïveté d'un certain type de public, hein, des gens pas forcément très informés, des jeunes, des gens qui ont envie d'y croire, est-ce que c'est l'essentiel en termes de chiffre d'affaires, c'est l'essentiel des arnaques sur Internet, c'est-à-dire moins technologique qu'on pourrait le croire, hein.
Ils sont très forts parce qu'en fait ils font le maillon faible qui quelque part, c'est la partie humaine dans la chaîne. Et on est étonné quand les services de police décortiquent ces affaires, de temps en temps ça arrive, et qu'ils trouvent les montants. On a en tête, il y a quelques mois, une affaire qui est sortie sur les numéros surtaxés. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez ce type d'arnaque. C'est-à-dire qu'on vous tient en haleine pour gagner le fameux iPhone, à taper des codes, votre numéro de téléphone, de date de naissance, etc. Et ça avait réussi à rapporter quasiment 1 million d'euros. De préjudice. Il y avait eu 50 000 victimes identifiées. Donc on peut imaginer qu'il y en a aussi des victimes qui n'ont pas été identifiées. Il y avait 10 000 SMS qui étaient envoyés par jour par la plateforme des pirates.
Dont certains sont très bien faits, hein. Ça peut être un numéro qu'on ne connaît pas, qu'on reçoit sur son téléphone. S'il te plaît, rappelle-moi, j'ai
c'est
une
ça,
question
exactement.
Urgente.
En fait, ça joue sur la proximité. L'idée, étant donné que le coût d'émission est très modeste, toute personne qui viendra participer à l'arnaque, en fait, participe à la marge, participera à rendre cela d'autant plus solvable. Ce qui est certain, c'est que quand vous évoquiez, c'est la combinaison de l'humain et de l'empathie pour vous inciter, alors par des sentiments une palette de sentiments qu'on connaît, c'est-à-dire l'envie, la cupidité, la recherche du sentiment amoureux. On peut avoir toute cette gamme de sentiments qui est amplifiée par la technologie. La technologie va permettre quoi ? Déjà d'abaisser les coûts pour mener ce type de campagne. Deuxièmement, qu'un individu puisse contacter une multitude de gens. Et troisièmement, que cet individu puisse la contacter sur une zone géographique très étendue. Si on était dans un mailing postal, s'il fallait envisager d'imprimer des feuilles de papier, de mettre sous enveloppe, d'avoir les adresses précises, de compter sur les services postaux, vous voyez bien que le système ne serait pas performant, il ne serait pas rentable. Là, la technologie permet d'amplifier le nombre, la zone géographique et surtout la capacité de multiplier successivement les vagues de sollicitations.
Quand on reçoit un SMS surtaxé et qu'on se doute que c'est un SMS surtaxé, qu'est-ce qu'on fait ? On bloque le numéro ? Il faut faire autre chose ?
Oui, alors là, il y a quelque chose qui est très simple à faire, c'est qu'il faut avoir un numéro déjà enregistré dans son téléphone qui est le 33700, c'est le numéro stop au spam, et il faut rediriger, faire une copie et le rediriger au 33700, ça va permettre d'être dans la boucle d'amélioration continue, d'aider à traiter ce problème.
Le 33700 n'est pas une arnaque, on est bien d'accord.
Exactement.
Ce sont deux spécialistes de sécurité, de cybersécurité, qui nous le valident. 33700, est-ce que ça marche aussi en dehors de la France ? Est-ce que c'est uniquement pour un périmètre donné ?
Je ne maîtrise pas. Je pense que les arnaqueurs, ça serait intéressant s'ils pouvaient nous appeler, maîtrisent davantage ce périmètre géographique.
En fait, lorsque vous avez un doute, une arnaque classique, c'est vous recevez un appel de quelqu'un qui, à peine vous allez décrocher, va raccrocher. L'idée, c'est d'éviter. Pour éviter cela, effectivement, alors si je prends l'exemple, puisqu'on l'a opéré avec Orange et ça fonctionne en tant qu'application, c'est qu'en fait, chaque utilisateur, avec une application qui est gratuite, disponible vraiment en téléchargement sur le site d'Orange, va permettre de dire, vous allez qualifié. Si vous avez été leurré par ce numéro de téléphone, vous allez le signaler. Et ce qui fait que quand moi je vais recevoir un appel, on va vous dire il y a tant de personnes qui ont signalé que cet appel venait d'une escroquerie.
En réalité, ils changent de numéro à chaque fois. Ça ne sert à rien de bloquer le numéro.
Alors, en tout cas, justement, l'idée c'est que même à partir de quelques signalements, on doit pouvoir arriver et pas être obligé d'attendre une procédure. Là, l'avantage, c'est que vous avez juste, quand le téléphone apparaît, vous avez juste à appuyer pour qualifier ce numéro de suspect. Et à ce moment-là, vous enrichissez afficher automatiquement la base. C'est un moyen simple et surtout qui va permettre, sans attendre le formalisme d'un dépôt de plainte, d'avoir une documentation administrative, de renseigner l'opérateur pour lui dire « Moi, quand j'ai été appelé par ce numéro-là, c'était un numéro avec une sollicitation malvenue. »
Ce qu'on appelle aujourd'hui, Sébastien Dupont, les brouteurs, qui sont-ils? Que font-ils exactement? Est-ce que le fonds de commerce des brouteurs, c'est encore la romance sentimentale?
Ils sont très forts et ils s'attachent à chaque fois à nos sentiments. Alors il y a effectivement l'arnaque à la romance, qui est, pour rappeler qu'est-ce qu'on cache derrière ce concept d'arnaque, c'est de jouer sur l'empathie, de vous faire croire qu'il y a une personne qui a besoin d'argent pour être opérée, ce type d'arnaque. Et vous allez... alors c'est soit également, c'est de tomber amoureux avec vous à distance, et on va vous demander de l'argent pour faire quelque chose. Et c'est dramatique, parce qu'il y a des personnes qui ont fait des emprunts, qui ont transféré cet argent à des personnes qu'ils ne verront jamais. Et même lorsque les services de police leur mettent sous les yeux les preuves, regardez, vous êtes fait arnaquer, les personnes continuent à défendre leur amoureux en les appelant, en disant ah, « j'ai les services de police qui sont arrivés ». C'est catastrophique. Et là où ils sont très forts, c'est que... D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas des... J'aimerais bien savoir comment ils sont organisés. Ça devient presque...
Les brouteurs, appelez-nous 33 1 84 22 71 71.
Ils sont très forts parce qu'on a l'impression que derrière chaque arnaque, il y a une émotion bien particulière. Sur les arnaques à la romance, on vient de le dire, c'est l'empathie. Sur les arnaques à l'effeuillage, quand vous faites arnaquer, vous êtes sur un site de rencontre, vous basculez sur une autre plateforme, là, vous êtes filmé à l'insu de votre plein gré, en train de vous effeuiller dans une relation intime. Et on va vous renvoyer sur votre téléphone votre vidéo et on va vous demander de payer une rançon, sans quoi la vidéo va être diffusée à votre carnet d'adresses, voire même à votre milieu professionnel. Et donc là, c'est le sentiment de culpabilité et de peur qui se mélangent. C'est très difficile de bien réagir. Il y a des adolescents qui réagissent très très mal, qui sont déjà isolés vis-à-vis de leurs parents et qui n'osent pas en parler. Donc c'est important pour eux et aux parents d'anticiper ce type de risque. Il y a également des arnaques, on a vu dernièrement, là il y a quelques semaines, vous aviez un message qui apparaissait sur votre ordinateur et qui dit « Nous vous avons vu aller sur des sites olé olé et nous diffusons ça sur Internet. Si tu ne verses pas, c'était 500 dollars de mémoire. » Donc là, ça joue sur la peur. Vous recevez ça, tout de suite, vous dites « Oh là !» Donc, il faut faire très attention aujourd'hui sur le mélange de nos sentiments quand on prend des décisions sur Internet. Et évidemment, je recommande de ne pas payer les rançons.
La pornographie, d'ailleurs, ce sont des sites qui servent d'appât. On a 80 millions de connexions par jour à des sites pornographiques. Ça peut aussi servir à récupérer des données bancaires et autres informations.
Alors, en fait,
c'est
souvent un vecteur d'infection. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller, de vous inciter à télécharger ou à enregistrer des éléments ou à naviguer sur un site qui correspond à vos centres d'intérêt. Alors, pour quelques-uns, ce sera peut-être des photos, même ça peut être des vidéos humoristiques que vous allez partager avec vos amis. Et puis, évidemment, le porno reste un vecteur commun à une partie de l'humanité. Et donc, c'est vrai que ce sentiment d'avoir accès à ces contenus gratuits ou à cette facilité, à cette disponibilité, fait que, en fait, vous allez... Alors,
même si on ne paye pas, hein, même
si
c'est du gratuit.
Non, bien sûr, c'est pour ça, c'est justement l'intérêt, puisque le modèle économique du pirate n'est pas du tout de gagner de l'argent sur la mise à disposition de contenus pornographiques. Et d'ailleurs, ce qu'il va faire, c'est qu'au contraire, ce seront des vidéos très bien documentées, enfin, très bien référencées, de manière à ce que vous puissiez, le cas échéant, les télécharger. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir que vous infectiez votre machine. Et donc, c'est vrai qu'il est utilisé comme appât. De la même manière qu'on l'a vu avec des cartes de vœux gratuites qui circulaient au moment de Noël, où vous allez sur un site télécharger des cartes de vœux électroniques, donc qui ont un petit programme dedans qui permet, par exemple, de lancer un message de bonne année ou de joyeux Noël. Et on voit bien que c'est une charge active d'un point de vue informatique. Vous la téléchargez, et surtout, si vous la transférez à quelqu'un, vous allez infecter cette personne en toute bonne foi. Et donc, c'est vrai que paradoxe, c'est que les gens vous disent « tout va bien ».
Des vidéos porno, il ne faut pas rien télécharger.
Alors, en tout cas, l'idée, c'est effectivement moins vous rapatrier de choses sur votre ordinateur, puisque vous voyez le paradoxe, c'est que
le
service est rendu.
Idem pour le
téléphone.
Bien sûr,
le smartphone est un petit ordinateur, donc ça, il ne faut pas faire de distinguo. La seule chose, c'est que vous voyez bien que la difficulté pour l'utilisateur, c'est que la promesse est tenue. Vous souhaitiez avoir un film porno, vous avez accès au film porno. Donc, vous pourriez ne pas faire le lien entre cette consommation et quelques jours, quelques semaines plus tard, le piratage de votre machine.
Il faut qu'on parle des smartphones en particulier. Alors, on a parlé des arnaques au numéro surtaxé, mais est-ce qu'on peut globalement s'introduire facilement dans nos smartphones, Sébastien Dupont?
Alors, il faut rassurer tout un chacun. Ce n'est pas courant, mais ça peut arriver. Ça peut arriver parce que, déjà, il faut que les gens restent tranquilles, leur smartphone qu'ils ne le jettent pas à la poubelle, ça reste très utile. Et il ne faut pas qu'on tombe dans une paranoïa. Mais il faut quand même rester vigilant. Alors, il y a deux types de choses lorsqu'on étudie le sujet qui existe. La première, c'est le cyberharcèlement à la maison. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, lors des cas de violence au domicile, que la partie violente mettait un piège sur le téléphone et avait accès à toute l'intimité de sa victime. Donc ça, c'est une première chose sur laquelle il faut rester vigilant. Et le minimum, c'est de mettre un mot de passe pour pas que votre conjoint puisse utiliser votre téléphone et éviter de le prêter à ses enfants. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait des arnaques qui étaient un peu plus élaborées à base de ce qu'on appelle les RAT. Alors, ce n'est pas RAT des villes et RAT des champs, c'est RAT comme Remote Access Tools. Et ce sont des outils qui, une fois qu'ils sont installés sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, prennent la main pour la personne qui est à distance.
Mais via des applications qu'on aurait téléchargées, par
exactement.
Exemple.
Alors, comment on fait ça? Comment on vous piège? On vous piège en vous envoyant un message. Par exemple, ce qui s'était passé là, c'était une invitation pour une soirée d'école. Vous cliquez sur un lien, et en cliquant sur ce lien, ça téléchargeait le petit bout de code, le logiciel, sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Et une fois que ça s'est fait, vous êtes piégé. C'est-à-dire que la personne a accès à votre webcam, aux mots de passe que vous saisissez, donc ça peut être les mots de passe bancaires, et quelque part à toute votre intimité. Quand le FBI a démantelé ce réseau international avec Europol et les services de police français, ils se sont aperçus que ce logiciel avait été téléchargé un demi-million de fois à travers le monde. C'est l'affaire Mistin USA, si vous voulez avoir plus d'informations sur Internet. Et ça pose un vrai problème de divulgation de la vie privée. On a tous besoin d'une vie intime. On a parlé du piratage à travers ça, des mots de passe, etc. Et donc, il faut être vigilant. Le minimum, moi, ce que je recommande de façon très simple, alors c'est de ne pas cliquer effectivement l'arnaque de phishing, et puis de mettre un bout de scotch sur l'objectif de la webcam, un bout de scotch non transparent de préférence, et ça évite de vous faire filmer à l'insu de votre plein gré.
Donc là, vous parlez de l'ordinateur, mais aussi du smartphone. Hein.
Alors, oui, parce que alors, le problème du téléphone, c'est que effectivement, ça devient le concentré en termes de données personnelles, de géolocalisation, d'éléments de connexion, ça devient le concentré des informations personnelles, voire intimes. C'est pour ça que la question de dire de conserver l'intimité de ce téléphone, vous avez aujourd'hui des applications qui sont vendues officiellement pour assurer la protection des mineurs, le téléphone pouvant être géolocalisé, les messages pouvant être lus à distance, ou des personnes, ce qu'on appelle des incapables majeurs, c'est-à-dire des personnes qui vont être atteintes de maladies dégénératives, et comme ça, si elles fuguent, vous pouvez les retrouver. Il est évident que la majorité des gens qui vont solliciter ces applications et qui vont les acheter pour les diffuser sur les téléphones de leurs proches ou de leurs subordonnés, éventuellement, dans le cas d'une relation d'entreprise, évidemment, ils ne visent ni des mineurs, ni des enfants, ni des personnes atteintes de maladies dégénératives. Et donc, c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit que votre téléphone, il a une vraie valeur, et donc d'avoir des mots de passe, de les utiliser, et d'en conserver la confidentialité.
Non, mais les mots de passe, c'est évident, mais est-ce qu'il faut être vigilant quand on télécharge une application,
Bien sûr,
pour prévoir le temps qu'il va faire,
Je vais vous dire pourquoi. Par exemple, nous avons un service qui pour l'instant est à destination des entreprises, et nous veillons, quand se créent des applications chez Apple ou chez Google avec Android, qui est de dire, prenons l'exemple d'une application RFI. Si quelqu'un créait demain, en utilisant les trois lettres RFI, un logo rouge et blanc, et moi, quand je veux avoir l'application RFI, je le fais très rapidement sur mon téléphone et je vais prendre la première ou celle qui a l'apparence, la saveur de l'intégrité de la vérité. Si vous n'avez pas conduit une supervision de ce qui est déposé dans les stores, c'est-à-dire dans les boutiques Apple ou Google, vous pouvez effectivement avoir des gens qui vont utiliser votre marque. J'ai le cas d'un grand industriel français.
Donc il faut aller voir s'il y a des commentaires, si,
exactement,
si ça a été noté,
et bien vérifier,
etc.
que c'est bien, et aller sur le site officiel de la société qui aura toujours un lien vers le store, enfin vers la boutique. Pourquoi? Parce que ça devient un élément d'usurpation de rentrer avec tous les droits d'accès dans un téléphone. C'est pour ça que c'est le rôle aussi des entreprises, des administrations, d'être vigilantes sur ce qui est fait de leur marque, sur le dépôt de nom de domaine sur les sites internet, et également dans la création d'applications dans les stores très grand public. Google et Apple n'effectuent pas de contrôle a priori de l'intégrité des applications.
Encore une question spécifique pour les smartphones et les tablettes, la géolocalisation. On dit non à toutes les demandes de géolocalisation, sauf pour le plan, hein, pour se diriger.
Oui, mais même vous pourriez l'utiliser que juste au moment où vous en avez besoin. Par exemple, moi c'est ce que je fais.
Donc même pour le plan, vous n'ouvrez la géolocalisation qu'au moment où vous en avez
besoin. Si vous êtes perdu, déjà ça vous apprend à vous retrouver, à quand même à gérer un sens de l'orientation et à redevenir un peu indépendant, parce que que faire si à un moment vous ne savez plus vous retrouver
Je me posais la question de savoir si les experts en cybersécurité étaient un peu parano, mais oui.
Il faut vraiment être dans des quartiers en plus récents où on n'a absolument aucun point de repère et à la géographie et à l'attribution des noms un peu hasardeuses pour l'utiliser. Mais l'idée, c'est de dire à quoi bon, de la même manière que vous pouvez vérifier les accès des applications aux différentes informations de votre... Est-ce qu'il est utile que votre lampe de poche, celle que vous avez sur votre téléphone portable, ait accès à votre carnet d'adresses, accès à vos photos, accès à l'historique de votre localisation?
Et ça, ce sont des questions qu'on vous pose au démarrage, quand vous installez un outil. Donc, non à tout.
Non à tout, bien sûr que non. Et il faut effectivement que cette captation d'informations soit utile au service et vous rende service. Mais par contre, ça vous oblige, effectivement, à rentrer dans le détail du service et à faire vos choix, mais c'est une précaution nécessaire.
Encore une dernière question sur le téléphone mobile, mais il y aura peut-être d'autres si vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des internautes, tout se fait via le smartphone. Sébastien Dupont, vous conseillez d'avoir à portée de main son numéro d'email, qui est le numéro d'identification du mobile que personne n'a avec soi. Enfin, on le trouve dans le mobile, qui sert à le bloquer à distance en cas de perte.
Oui, l'idée, c'est de faire du préventif. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas qu'à un moment, on peut se faire voler son téléphone, tout bêtement. Et il faut avoir les moyens de rapidement pouvoir prévenir son opérateur, de prouver qui on est et de pouvoir révoquer quelque part les accès. Donc c'est d'avoir cette stratégie un petit peu préventive.
C'est-à-dire que si vous avez votre numéro d'email, vous ne pouvez pas le faire à distance, vous êtes obligé de passer par votre opérateur.
Exactement, il faut passer par l'opérateur. Et je vais revenir sur ceux qui sont, en termes de géolocalisation, qui ont besoin d'être sensibilisés un peu plus. Je vous propose un test. Le test, si vous avez un compte Gmail, c'est d'aller sur Google Location, location en anglais, et vous allez voir, c'est bluffant. Vous allez avoir la carte géographique de votre lieu de vie avec tous vos déplacements de la veille, du mois d'avant et des années précédentes sur une map monde.
En rentrant votre adresse email.
En rentrant votre adresse email et en tapant Google Location. C'est bluffant. Quand vous voyez tout ça, profitez-en pour supprimer l'archivage. Alors évidemment, pour y avoir accès, il faut que quelqu'un vous pirate votre compte et votre mot de passe. Mais vous allez avoir une sensation d'être espionné. Et vous allez comprendre les risques que cela peut poser. Ça peut poser pour un entrepreneur, ça peut être gênant que son concurrent sache où il est en train de prospecter. Ça peut être gênant de savoir où vous achetez des fleurs et où est-ce que vous les livrez, etc. etc.
Sachant qu'on a également le cas avec les mails, vous pouvez demander à Google de vous donner 5 ans de l'historique de vos recherches sur Internet. Et là, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses, quand vous allez revoir l'historique de vos 5 ans, Google vous l'envoie par retour de mail avec un petit fichier, vous allez voir qu'il y a des choses, vous allez être tout à fait consciente de pourquoi vous aviez à l'époque conduit ces recherches-là, et puis à un moment, vous allez vraiment vous dire, mais je ne sais absolument pas pourquoi j'ai interrogé Google là-dessus. La seule chose, c'est que l'intégralité de vos recherches sur ce moteur depuis 5 ans fait un tableau impressionniste de votre personnalité, de vos préoccupations, de votre état de santé, de votre état psychologique, sans équivalent. Donc vous voyez effectivement que ces traces, ce n'est pas des éléments isolés, elles sont compilées, donc vous avez intérêt à les maîtriser.
Et si on efface régulièrement, tous les jours, tous les deux jours, les historiques de recherche sur le smartphone, comme sur une tablette, comme sur un ordinateur?
Alors ça n'empêche, effectivement, ils ne seront plus stockés dans le navigateur, il n'empêche que le gestionnaire, si on prend l'exemple de Google, sera encore détenteur de ces données.
Sauf donc, si on lui demande de les effacer.
Et puis privilégier peut-être alors si on prend l'exemple du navigateur, Firefox, qui effectivement a une politique de gestion de la vie privée qui est plus clémente que d'autres opérateurs qui, effectivement, a priori, exploitent l'intégralité des informations.
Allez, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 pour poser des questions à nos experts en cybersécurité. On parle des arnaques sur Internet aujourd'hui. Évidemment, il faut qu'on aborde la partie commerce en ligne qui se développe énormément sur tous les continents, y compris sur le continent africain. On a un témoignage de Nicolas. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur cette semaine de l'émission 7 milliards de voisins et vous avez eu un problème de carte bancaire ce mois-ci.
Tout à fait. Je me suis fait en un mois pirater 2 cartes bleues. Donc ça, je comprends le principe du commerce en ligne. Je reçois des notifications d'achat sur Internet. Le point qui me pose question, c'est que là, récemment, il y a un peu plus d'un millier d'euros de dépenses. Mais je vois qu'il y a eu des achats qui ont été effectués en boutique, c'est-à-dire physiquement. Et là, je ne comprends pas comment c'est possible.
Vous n'êtes pas fait voler votre carte bancaire,
absolument,
on est bien d'accord.
Absolument pas, hein. Elle est dans mon portefeuille.
Ce qui a été dérobé probablement en faisant du shopping sur Internet, c'est votre numéro de carte bancaire.
Mon cryptogramme.
Le cryptogramme,
éventuellement.
Mais pas la carte physique.
Non.
Donc comment on peut faire des achats dans une boutique physique avec une carte bancaire qui n'a pas été dérobée?
Alors là, il y a plusieurs options. Alors il y a la première qui est la complicité de la boutique, c'est-à-dire qu'effectivement on va rentrer les données et qu'il va pouvoir faire la transaction sans avoir la carte physique, puisque sur son interface il va pouvoir le faire. Vous allez avoir des gens qui effectivement à partir des sites en question, peut-être qu'ils ont une activité marchande, et donc de la même manière que c'est indifférent que ça peut être fait dans la boutique de manière physique. Donc ça, c'est peut-être la deuxième explication.
C'est-à-dire que dans la boutique, en fait, c'est comme un commerce
c'est
internet.
Dans un e-commerce, il y a beaucoup de chaînes.
En l'occurrence, c'est la SNCF, mais c'est la boutique de la gare de Nancy.
Donc effectivement, la troisième option, c'est quelqu'un ait fait un faux à partir de votre carte, c'est-à-dire qu'effectivement ait construit une copie physique de votre carte. C'est assez surprenant parce que c'est moins le mode opératoire aujourd'hui, c'est plus rentable. Le problème, si effectivement quelqu'un s'est déplacé, c'est qu'en fait le pirate, déjà ça c'est très physique, c'est-à-dire que déjà il va falloir payer cette personne. En plus, il est possible qu'à un moment, si vous y réagissez assez rapidement, il y a peut-être des caméras quelque part. Donc on va commencer à mettre une identité. Donc c'est en général pas le mode opératoire que l'on constate le plus parce qu'il est trop coûteux, il est trop complexe. De la même manière qu'on avait des piratages à un moment de distributeurs automatiques de billets. Alors c'était séduisant puisqu'en fait le distributeur se mettait à cracher des billets, mais en fait c'était pas si rentable que ça parce qu'il faut quand même que vous mettiez des individus de chair, de sang qui soient devant le distributeur. Donc il faut que vous ayez confiance en eux au moment où ils le font, parce que pour pas qu'ils vous volent des billets. Et donc ça avait cette implication physique, alors que le pirate à l'ère numérique apprécie au contraire de le faire à distance, de mettre des frontières et d'automatiser ces process. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Par contre, juste un mot là-dessus, sur la jurisprudence bancaire. Alors là, je vais faire, excusez-moi, un focus français, mais qui se retrouvait dans un certain nombre de banques étrangères, qui était de dire globalement, vous pouviez, par une simple déclaration sur l'honneur, vous exonérer, de dire c'est pas moi, j'étais pas à Nancy ce jour-là, je conteste ce paiement. Et depuis très longtemps, le commerce en ligne a prospéré aussi sur ce credo qui était de dire, après tout, si j'ai un paiement indu, je me ferai rembourser. Alors au début, il fallait porter plainte. Maintenant, le ministère de l'Intérieur n'était pas très emballé par ces dépôts de plainte qui ne se résolvaient pas et donc qui n'étaient pas très bons pour ces statistiques. Donc on est passé à la déclaration sur l'honneur. La seule chose, c'est que un arrêt de la Cour de cassation du mois de mars 2018 vient de dire, monsieur, si à un moment vous avez cliqué sur un lien, vous avez téléchargé un document qui était manifestement défaillant, c'est-à-dire que votre opérateur d'électricité...
La banque vous accuse de crédulité.
De négligence, de non-vigilance. Voilà. Et là, à ce moment-là, la Cour de cassation a donné raison à la banque en disant ce client a été négligent, a fait preuve d'un manque de vigilance. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'à un moment, les consommateurs seront mis en cause. C'est-à-dire, à un moment, on ne peut pas s'exonérer en disant je vis dans un monde où... d'ailleurs, vous voyez bien que si vous tiriez de l'argent dans une banque au distributeur, vous tirez 30 euros. Il s'avère qu'on vous les perdait ou on vous les vole, vous ne pouvez pas retourner à l'agence en disant remboursez-moi. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette notion de responsabilité qui va croissante.
Oui, mais qui enquête ?
Alors, en France, vous avez un service qui s'appelle l'OCLCTIC, l'Office Central chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, et vous avez, en l'occurrence, qui va en fait compiler. Pourquoi ? Parce que là, il s'avère qu'on vous a pris un petit millier d'euros, donc c'est à la hauteur de votre traitement, donc ça, c'est marginal peut-être pour vous, mais l'idée, c'est surtout que, au-delà de la plaisanterie, c'est surtout que quand on est dans le cas de petits prélèvements, l'intérêt de centraliser les investigations, ça permet de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un épiphénomène, mais bien d'une tendance lourde. Et donc, ça permet quand même de mobiliser des magistrats et de faire en sorte que des procédures soient diligentées, et pas uniquement en disant « c'est une affaire à 30 euros, c'est négligeable ».
Alors, globalement, quand même, merci en tout cas Nicolas pour le témoignage. Maintenant, vous retournez merci. Côté réalisation, mais globalement, pour le moment, les banques, quand il y a un service d'assurance qui est vendu avec des services bancaires, ne rechignent pas trop à rembourser ce qui est de toute évidence, non pas une arnaque sur des ressorts psychologiques, mais bel et bien ce qu'on peut appeler du hameçonnage.
En fait, c'est de l'escroquerie. Alors, parce que les circonstances...
C'est du piratage de carte bancaire.
Alors, hameçonnage, ça supposerait qu'on lui ait pris à l'occasion d'une transaction en ligne. Ça peut être également à l'occasion d'une transaction dans un commerce physique où un vendeur, une vendeuse indélicat a recopié les numéros, c'est-à-dire le numéro de la carte, la date d'expiration et les trois chiffres qui sont au dos de la carte.
C'est quand même rare d'avoir le temps de faire ça quand on met sa carte dans une machine. C'est quasiment impossible dans un magasin physique.
En général, ce qui se passe, c'est que dans les restaurants, par exemple, quand vous avez... Alors, on va pas accuser
les saisonniers. On vous amène la petite machine.
On vous l'amène ou quelquefois... Bah oui, mais quand le commerçant indélicat, lui, va l'emmener en arrière-boutique. banque. Oui.
Pour bon, dire, alors là aussi, conseil, ne laissez pas votre carte bleue,
de la laisser, voilà,
avec votre carte bancaire partir.
Et que ce soit dans
sur
n'importe quel pays.
Sur le commerce en ligne, là, c'est quand même beaucoup plus compliqué, parce que bien sûr que sur les conseils de vigilance, ça semble évident, mais sur le commerce en ligne, comment savoir que sa carte bancaire ne risque pas d'être piratée, hormis les quelques grandes enseignes, mais on est souvent amené à faire du commerce chez des commerçants, à faire des achats chez des commerçants qu'on ne connaît pas vraiment, en fait.
Alors aujourd'hui, les sites sont plutôt sécurisés. Ça fait quand même 20 ans qu'ils sont en place. Le taux de fraude sur les paiements est entre 1 et 2 sur 1000 transactions. Donc on imagine, pour que les familles se donnent une idée, j'ai fait un petit calcul, c'est que si vous êtes une famille de 4 personnes, vous allez être touché une fois tous les 10 ans. Donc c'est ça un peu la moyenne pour apprécier de façon globale le risque.
Ça nous rassure.
C'est rassurant. Après, ce qui est dommage, c'est quand on est victime, parce qu'on perd du temps, il faut aller faire les déclarations. Des fois, ça met du temps. Il y a quelques dossiers qui traînent à traiter. Certains se retrouvent après en cassation, mais c'est bien, ça fait avancer le droit et donc c'est plutôt positif. Voilà, les mesures de prudence, c'est utiliser des sites avec le cadenas, on redit toujours les mêmes choses.
Donc paiement sécurisé.
Paiement sécurisé, même s'il faut rester vigilant, parce que les pirates s'y mettent aussi. Aujourd'hui, 50% des sites de pirates sont également sécurisés, donc ça ne rassure pas.
Mais ils ne veulent pas se faire voler eux-mêmes, c'est normal.
Y compris avec le SMS de vérification par la banque ?
Alors, ça, c'est une mesure récente, la double authentification ou l'authentification secondaire, qui est très intéressante. Elle apporte un plus de sécurité, un énorme plus. Malheureusement, les pirates ont trouvé une faille qui est de vous pirater à la fois le téléphone et le compte. Donc, ils font un piratage par phishing pour récupérer
donc
votre mot de passe.
Donc, c'est le pirate qui récupère le code envoyé par la banque par SMS que vous recevez sur votre téléphone. Le pirate le reçoit en même temps.
Exactement. En fait, il va faire
croire. Et il donne le code.
Il va se faire passer pour vous auprès de votre opérateur. Et il va faire croire que vous avez perdu votre téléphone. Et il va récupérer votre carte SIMS avant vous. Et il a 24 heures pour pouvoir finaliser l'arnaque financière. C'est pour ça qu'il y a une évolution qui est en train d'être mise en place de renfort de la sécurité des sites bancaires. Voilà. Bon, ces fraudes ont été évoquées par les services de police pour la première année en 2018. Ça reste encore à la marge, hein. Il faut rassurer tout le monde. Mais c'est la course entre les voleurs et la police. Et donc tout ça, il faut rassurer tout le monde aujourd'hui. Il faut utiliser à la fois les sites qui sont en bas de chez vous pour avoir de la proximité. Et ceux qui veulent utiliser les sites bancaires, il faut les utiliser
sachant
également.
Sachant que plus on parle des arnaques, plus évidemment
en fait, les, gens
les
déjà
hackers
au
et les pirates et les arnaqueurs trouvent évidemment des
en fait, ça évolue. Prenez l'exemple des cartes bancaires. Vous voyez les trois chiffres qui sont au dos. Effectivement, maintenant, on va généraliser le fait que vous ayez alors un petit écran à la place de cet imprimé, de manière à ce que ces trois chiffres changent régulièrement. Aujourd'hui, enfin, même Orange Bank va le proposer, un certain nombre de banques le proposent, qui est de dire, en fait, on va essayer de faire une variable qui fait que si une fois l'élément du numéro de la carte, la date d'expiration ont été trouvés, que ce troisième élément d'identification constitue une sécurité. Ce qui est certain, c'est qu'on va être dans une évolution avec toujours une précaution de la part des commerçants, qu'il faut que ce qu'on appelle le tunnel de conversion, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur un site jusqu'à conclure la transaction, ne soit pas dissuasif. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il ne faudrait pas que vous abandonniez en route au nom de trop de complexité. C'est pour ça qu'il y a cet équilibre entre la fluidité de la connexion et de la transaction commerciale, la nécessaire protection et le fait que des droits existent. Donc, à chaque fois, on va avoir cet équilibre qui est éminemment psychologique, parce que est-ce que vous estimez qu'on vous pose trop de questions, trop de contrôles, ou au contraire que vous considérez que le jeu en vaut la chandelle et que vous allez vous plier à toutes les requêtes? C'est bien cette appréciation qu'il faut pour les e-commerçants qui doivent être aussi psychologues.
On retourne au standard, on a encore pas mal de questions à vous poser. Marie-Cécile nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Vous êtes à Yaoundé, bonjour Marie-Cécile.
Bonjour Emmanuel.
Marie-Cécile, vous avez été victime d'une arnaque. C'était en faisant des achats sur Internet ou pas?
Non, pas du tout. Voilà ce qui m'est arrivé. En juillet dernier, je vérifie mon relevé bancaire et je vois un débit de 49 euros que je n'ai pas identifié. Bon, mais comme c'était des congés, je me suis dit, je verrai ça après. Et exactement un mois après, le même débit de 49 euros est encore sur mon relevé bancaire avec le même débiteur. Donc cela m'a semblé un prélèvement mensuel, or je n'ai rien demandé. Donc j'ai été sur ce site et on me demande mon identifiant qui apparaît dès que je tape mon prénom, Marie-Cécile. Et je vois que j'ai un abonnement depuis le 11 ou 12 juillet. Or, je n'ai rien demandé, je n'ai fait aucune manipulation de transaction. Alors, je me suis donc retournée vers... j'ai regardé les mails en arrière, parce que comme c'était les congés, je ne les ai pas tous regardés. Et au 11 juillet, effectivement, je vois que j'ai eu un essai gratuit de 2 heures à streaming direct, au-delà desquels l'offre gratuite se transforme en abonnement. Mais je n'ai rien fait puisque je n'avais pas consulté. Donc, en fait, on s'est servi de ma carte bleue sans qu'on fasse de manipulation de transaction et on me fait un prélèvement automatique.
Mais à un moment donné, vous avez donné vos coordonnées bancaires.
Mais non, non, du tout. Du tout. D'accord. Non, du tout. C'est ça qui me... Non, puisque c'est la première fois que j'allais sur
La banque vous a remboursé et la semaine dernière, vous avez eu des menaces du site avec des menaces de poursuite judiciaire.
Voilà, exactement. C'est-à-dire, mon conseiller bancaire m'a fait faire la déclaration. Au mois de novembre, j'ai été remboursée. Et maintenant, c'était la semaine dernière, c'est ça qui m'a incité aussi à vous écrire. Ils me disent, c'est accessnet.info, voilà le site, en me disant qu'ils attirent mon attention sur le fait que nous poursuivons systématiquement pour fraude à la carte bancaire. Il faut tout un laïus.
Bon, Marie-Cécile, comme on a encore d'autres questions à poser à nos invités, je vous interromps, mais je crois qu'on a bien compris. En tout cas, accessnet.info, surtout pas, arnaque. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va essayer de comprendre pour vous aider, Marie-Cécile.
Alors, ce qui est possible, c'est que, en fait, il faut décorréler les attaques que vous subissez des captations des données vous concernant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un temps de décalage entre le moment où le pirate a eu accès à vos données, par exemple parce que la base de données d'un de vos fournisseurs habituels elle-même était piratée, lui a acheté cette base dans laquelle il y avait votre nom, votre prénom, peut-être votre date de naissance, votre email et votre numéro de carte bancaire, puisque là vous étiez tout à fait partante pour le confier à l'époque, et c'est cette base qui a été piratée. Et il s'avère que sur des places de marché, vous pouvez acheter ces bases qui ont une valeur. Alors, plus les données sont complètes, plus elle est récente, plus ça permet de donner une cote, en quelque sorte, à cette information. Et effectivement, l'idée, c'est de vous faire souscrire à des sites commerçants qui vont effectivement vous paraître indolore. C'est-à-dire que le nom peut éventuellement ne pas vous alerter quand vous balayez. Alors, vous êtes une consommatrice scrupuleuse, donc vous pointez vos comptes. Et effectivement, c'est aussi le conseil qu'il faut donner. C'est-à-dire, vous voyez bien que le montant de 49 euros, il va souvent être, d'ailleurs, ça va être... Il y a souvent un seuil dans les banques de détail qui est à partir de lequel il y a des investigations. À 49 euros, il n'y aura pas d'investigation automatique.
À l'origine, il n'y a pas tellement de moyens de se prémunir.
Le moyen, c'est de détecter.
Mais quand on vous propose un essai pendant 2 jours sur
un site. Bien sûr. C'est pour ça que la question, elle est vraiment, et votre auditrice est tout à fait dans la bonne démarche, d'être vigilante. Parce qu'il y a des attaques qu'on ne pourra pas empêcher. Et là, je parle, c'est la même démarche pour les entreprises.
Et elle n'a pas donné son numéro de carte bancaire.
Bien sûr, mais c'est détecté. Par contre, ce piratage du numéro de carte bancaire a pu survenir chez un autre fournisseur, et c'est son identité qui a été utilisée à cette façon. Mais plus vous pourrez détecter tôt, plus vous compilerez les éléments et vous stopperez l'hémorragie.
Merci Marie-Cécile de nous avoir appelé. On donne la parole à Eric qui nous appelle de Lubumbashi en RDC. Bonjour Eric.
Oui, bonjour.
Eric, vous êtes un informaticien développeur. Qu'est-ce que vous constatez autour de vous? Je crois que vous aviez envie de rappeler quelques conseils évidents. Il nous reste vraiment quelques minutes.
Oui, franchement, ça me désole. Franchement, ça me désole par rapport à tout ce qui se passe sur les nets présentement. Donc, c'est par rapport d'abord à tous les utilisateurs des réseaux sociaux qui se font arnaquer. Oui, vu que les gens se plaignent beaucoup plus sur Facebook, c'est par rapport à ça que j'allais porter quelques conseils.
Allez-y, en quelques mots, Eric.
Oui, en quelques mots, donc par rapport au piratage des données, je me suis dit qu'il y a le faille dans le mot de passe, avec le système d'authentification, par exemple. Les gens ne savent pas composer un mot de passe. Il y a des techniques pour composer un mot de passe. Et je suggère aussi même à des personnes de changer très souvent leur mot de passe après quelques périodes. Parce que le pirate informatique, pour déchiffrer un mot de passe costaud, ça prend le temps. Et pour un autre point sur l'usurpation d'identité, je me dis que quand son téléphone, son ordinateur est mal configuré, par exemple, et qu'on est en amitié avec une personne mal intentionnée, là déjà on rend possible l'usurpation de ces données. Parce que on a beaucoup plus cette facilité de faire confiance à une personne qu'on n'a jamais vue plutôt que de personnes.
Et on a rentré beaucoup trop d'informations sur les réseaux sociaux, sur soi-même. Merci beaucoup Eric de nous avoir appelés. On arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais qu'on dise très rapidement, en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'un mot de passe fort? Comment éviter qu'il ne soit forcé, ce qu'on appelle une brute force
Alors aujourd'hui, il faut passer sur la passe-phrase. Il faut ne plus utiliser des mots de passe, mais utiliser la passe-phrase. On va prendre un exemple simple. J'ai faim 4 fois par jour. Vous avez cette phrase, j'ai faim 4 fois par jour. Vous prenez les premières lettres à chaque fois. Ça fait G, faim, vous pouvez le garder en entier. On va voir après ce qu'on va faire dessus.
La lettre G, faim, d'accord. Faim, le mot.
Le mot, 4, le chiffre. Pour mettre le foie, vous mettez le X, comme slash, jour. Là, vous avez un mot de passe qui est presque robuste. Le seul
Parce
défaut qu'il a...
Il y a de la majuscule, il y a des chiffres, alors voilà, exactement. Il y a des minuscules.
Il a 3 parmi 4. Il a la majuscule, la minuscule, le chiffre et les caractères spéciaux. Donc, il faut avoir 3 parmi 4 et qu'il fasse plus de 8 caractères. Là, on est sur du solide. Le seul défaut qu'a ce mot de passe, c'est qu'il a un mot du dictionnaire, le mot fin. Donc, il va falloir faire une faute d'orthographe pour casser... Cette chose qui peut être devinée. Donc le fin, vous le mettez FIM, par exemple, F-I-M, et là vous avez un très bon mot de passe. Par contre, vous ne me le prenez pas celui-ci parce que c'est le mien.
Juste un mot sur les plaintes et les remboursements. On a dit que les banques maintenant vont de plus en plus traîner les pieds pour rembourser des arnaques. Est-ce que le vol de données est très largement puni par la loi
Alors, le vol de données personnelles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une donnée personnelle, c'est toute donnée qui permet d'identifier quelqu'un ou de le rendre identifiable. Donc, nom, prénom, date de naissance, photo, lieu de naissance, etc. La réglementation, alors à l'échelle européenne, il y a un règlement général sur la protection des données qui fixe l'obligation à une entreprise ou d'administration qui a perdu ou s'est fait voler des données, de déclarer à l'autorité nationale, donc par exemple la Commission nationale informatique et liberté, mais la CNDP au Maroc, etc., de déclarer et de prévenir le titulaire de la donnée et avec des sanctions. Et donc on voit de plus en plus une mise en cause de la responsabilité. Là encore, on est bien dans la détection. Je n'ai pas pu empêcher l'attaque, mais je dois prévenir, faire diligence pour que les gens soient prévenus. Lorsque par exemple le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères a vu la base Ariane, celle qui est qui permet de contacter les gens en déplacement et en cas de difficulté, bah effectivement, il faut prévenir les titulaires des données. Pourquoi ? Parce que ce sont des données qui sont réelles, ce sont bien, vous n'avez pas donné de faux numéros, vous avez vraiment donné les vrais numéros pour être contacté. Et donc, ça vous permet d'être vigilant quand vous savez que vos informations ont été à un moment rendues publiques. Ça hausse votre niveau de vigilance et donc ça vous protège et ça vous oblige à être plus critique quant aux messages que
donc,
vous pouvez recevoir.
Donc, cyber-citoyenneté pour moins d'arnaques sur Internet, un Internet plus safe. Sébastien Dupont, est-ce que tous les deux, d'ailleurs, vous êtes ultra sécurisés chez vous? Est-ce que vous appliquez vous-même des règles d'hygiène numérique drastiques ou vous êtes un peu comme les médecins qui fument, finalement? Alors, Sébastien Dupont.
Il y a un peu des deux, vous avez raison, nous ne sommes pas parfaits. Si on doit recommander une chose sur laquelle on peut agir, j'ai envie de... Alors, pour être très concret, j'ai le bout de scotch sur mon webcam.
Vous n'avez pas d'enceinte connectée chez vous?
J'ai pas d'enceinte connectée, mais je suis obligé de m'y mettre si je veux pouvoir avoir un avis critique. Donc je suis plutôt du style à avoir testé et à faire des erreurs. Je fais, d'ailleurs, pour écrire le livre, j'ai été sur les sites de rencontres et je me suis fait arnaquer. Je raconte tout cela, ce qui a permis d'en déduire des leçons. La chose que je recommande, c'est surtout de faire ces sauvegardes. Pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas vos sauvegardes, le jour où vous allez être victime d'un chantage, à un rançon logiciel, c'est-à-dire vous ne pouvez plus accéder à vos données si vous ne payez pas une rançon, on vous fait la promesse de pouvoir accéder à vos données si vous payez une rançon, vous allez être coincé. Donc il est important de faire ces sauvegardes et ça, c'est collectivement, on peut faire quelque chose.
Dans les nuages ou sur une clé USB ? Parce que vous conseillez à un moment donné d'aller l'écraser avec une masse et de l'enterrer en forêt. Alors bon, ça sera pour une autre émission. Merci en tout cas à tous les deux. Sébastien Dupont, vous publiez Vous êtes fou d'aller sur Internet aux éditions Flammarion. Merci à vous Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie d'Orange Cyberdéfense. Et vous avez publié La cybersécurité. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain, 7 milliards de voisins. On respire, on parlera cuisine.